RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Voilà, nous sommes là, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les GG, avec aujourd'hui Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon, Fatima Hildounois, la professeure de français, et puis Antoine Dire, ce consultant juridique à Dunkerque. On accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Nous sommes avec Jean-François Copé, le maire de Meaux, avec son livre « Quand les populistes trahissent le peuple » aux éditions Plomb. Bonjour monsieur Copé.
Bonjour.
Vous êtes maire, est-ce que dans votre ville, à Meaux, face à la canicule que nous vivons, les classes des écoles sont climatisées ?
Ah non, elles ne sont pas, malheureusement, parce que ce sont des écoles qui, comme toutes les écoles de France, ont vécu et ont été construites à un moment où on ne climatisait pas. Donc non, elles ne sont malheureusement pas climatisées. On essaie de les rafraîchir du mieux qu'on peut, mais c'est une situation qui est objectivement très dure à vivre.
Elle propose un plan climatisation. On climatise les écoles, les transports, les lieux qu'il faut climatiser pour qu'on puisse, dans les années qui viennent, vivre ces périodes de canicule qui se multiplient.
Enfin, je pense que oui, il va falloir climatiser. La seule chose, c'est que ça fait partie de ces débats qu'il va falloir qu'on ait de manière très transparente avec les Français. C'est des plans à 50 milliards d'euros. Donc, moi, je veux bien, mais quand Le Pen, dans le même temps, elle dit que il faut surtout pas toucher aux retraites, qu'il faut surtout pas baisser les dépenses publiques, sauf celles qui concernent les immigrés. Inutile de vous dire que le compte y sera jamais, mais que pour le reste, c'est juste taxer les riches. Bah, c'est se moquer du monde, voilà. Et c'est une excellente illustration du populisme, c'est-à-dire comment on fait pour faire croire aux gens en instrumentalisant une émotion, là en l'occurrence l'insupportabilité de cette hyper chaleur, dit bon, on n'a qu'à climatiser partout et moi si je suis élu je le ferai. Bah oui, mais elle se garde bien de dire que pour le faire il faut un financement gigantesque et qu'à ce moment-là, bah, soit on réforme les retraites en faisant des économies, soit on travaille plus pour financer ça, mais en tout état de cause, ça peut pas être juste par des hausses d'impôts.
Mais qui sont ces populistes alors ? Qu'est-ce que le populisme d'abord, si on doit le définir ?
Bah, vous savez, j'ai voulu faire ce livre dans cet esprit, c'est-à-dire de dire en fait, qu'est-ce que c'est un populiste ? C'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, un parti populiste, ça prend le pouvoir en instrumentalisant des émotions, c'est-à-dire la peur, la frustration, la colère, et on joue sur ces trois émotions pour radicaliser des minorités qui prennent le pouvoir. C'est tout l'opposé des partis de gouvernement qui, eux, savent très bien que les choses sont complexes et qu'on peut pas simplement jouer sur les émotions et les colères pour proposer des choses pas réalistes. Et donc, c'est plus austère d'être un parti de gouvernement. Et d'ailleurs, le match entre les partis populistes, RN et LFI, parce que je mets un signe égal entre les deux, en réalité, c'est facile pour eux, parce qu'il suffit juste de dire « il n'y a qu'à faire ça ». On se garde bien de trouver la manière de le faire. Là où le parti de gouvernement, il doit expliquer, il prend du temps, c'est forcément plus long.
On est toujours le populiste des uns et des autres.
Non, non.
Parce que, pardon, dans ceux qui nous gouvernent, il y a aussi ces vieilles ficelles politiciennes qui consistent à jouer avec les peurs. Pardon, mais Emmanuel Macron a pu être populiste en son temps, Jacques Chirac ou les autres. Donc, est-ce que c'est pas un peu trop facile ? Je comprends, vous voulez dire, en gros, il y a les méchants, c'est le RN et la France Insoumise, et puis les gentils, c'est les LR, le Parti Socialiste, je sais pas jusqu'où vous allez, et le Bloc Central. Est-ce que c'est pas un peu trop simple et un peu manichéen ? Parce que les populistes, moi j'ai l'impression que je les entends partout.
Non, je vous assure.
Et les menteurs, et ceux qui sont dans le déni. J'entendais ce matin M. Lescure, le ministre de l'économie, nous expliquer que l'économie française était résistante. Pardon, quand je regarde factuellement les indicateurs, ils disent exactement l'inverse de ce que dit M. Lescure. Est-ce que M. Lescure est populiste ?
Non, il fait de la langue de bois. C'est pas la même chose.
Ah.
Non, c'est la même chose. Mais je vais vous expliquer. C'est parce que j'ai pas fait 250 pages pour dire il y a d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. J'ai essayé de faire un vrai travail. On se connaît suffisamment depuis toutes les années que je viens chez vous. Vous vous doutez bien que j'ai pas dit, tiens, alors voilà, il y a un grand 1, il y a les gentils, grand 2, il y a les méchants. Donc j'ai fait un travail de décortiquage et j'ai rappelé à cette occasion qu'en réalité, lorsque les populistes prennent le pouvoir, ils le font avec un ADN totalement différent d'une autre. et la preuve d'une autre, du parti de gouvernement. Et d'ailleurs, on le voit dans l'histoire. Et j'ai donné des exemples. Et si on veut prendre un exemple d'actualité, bah, on a le cas du bilan désastreux de Orban en Hongrie, qui a coulé son pays avec une politique totalement populiste, qui s'est fait élire en faisant des tas de promesses totalement intenables. Il n'a fait aucune réforme. Il a généré systématiquement la radicalisation des minorités en prenant comme bouc émissaire l'Europe, l'étranger, en faisant des œillades à Poutine, lui-même évidemment populiste, et il a serré les libertés dans des conditions incroyables. Résultat des courses, il est écrasé après avoir interdit, après avoir poursuivi les opposants, mais là cette fois-ci il a été écrasé aux élections. Pourquoi? Bah parce que le bilan est catastrophique et que si, quand on me dit ah oui mais il est parti donc il est démocrate, non, il est parti parce qu'il a eu peur de la rue, faut pas se mentir. Bon, donc vous avez là un exemple typique, mais vous en avez d'autres. Vous avez Trump qui de la même manière montre aujourd'hui les ravages de ce que peut donner un chef d'État, un homme politique populiste arrivé au pouvoir avec des stratégies de radicalisation. Et donc moi mon combat il est de dire attention. Attention, parce que dans un an, tout le monde nous annonce la victoire du RN. Ben moi, je préfère prévenir. Le discours et le programme du RN aujourd'hui est totalement infondé, fondé sur les peurs, pas documenté budgétairement. Et derrière tout ça, c'est un risque d'effondrement.
Antoine, une question là. Vous parlez de beaucoup de dirigeants étrangers. Milei, pour vous, c'est populiste ou pas?
Bien sûr, je l'ai cité dans le livre. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez. Typiquement,
j'ai lu.
Typiquement, le cas du leader du président argentin est typique. C'est-à-dire que vous avez d'abord, ne comparez surtout pas l'Argentine à la France. C'est un pays surendetté, corrompu depuis 1945 et rongé par le populisme péroniste. Voilà. Donc, on est vraiment dans une approche typique de ce point de vue.
J'ai manqué le passage Milei, mais j'ai lu votre livre et je vais vous le montrer. Vous voyez, moi, j'ai une difficulté avec vous, c'est bien écrit, mais j'ai une difficulté à ce que tout soit populiste. Dès que c'est pas d'accord avec vous, dès que c'est pas sur votre ligne, c'est populiste. Alors que, en réalité, les partis de gouvernement dont vous parlez, n'ont pas démontré leur efficacité. Et c'est bien le problème. Vous étiez à l'époque le leader de la droite décomplexée. Quand j'étais jeune militant de droite, j'ai adoré le Jean-François Copé de la droite décomplexée. Et puis après, il y a le Jean-François Copé de 2022-2024 qui dit faut peut-être qu'on travaille avec Macron. Après, il y a le Jean-François Copé, et vous l'écrivez très bien, qui dit que la dissolution par Macron était une catastrophe. Et donc, en fait, finalement, on ne sait plus qui est Jean-François Copé. C'est le Jean-François Copé de la droite décomplexée avec un discours solide, sérieux, que certains pourraient même dire populiste, imaginez-vous, par moment. Ou c'est le Jean-François Copé, centriste complexé d'aujourd'hui, qui essaye de se repositionner dans un monde politique difficile.
Et j'ai été traité d'islamiste par CNews. J'imaginais pas qu'aux grandes gueules on allait me traiter de centriste. C'est bien parce que
qu'est-ce qui est pire,
je ne sais pas ce que je préfère. Hein.
Attendez,
j'arrive.
Non, mais vous voulez travailler avec les centristes aujourd'hui?
Écoutez-moi. On va être très très précis. Si vous m'avez lu, donc je veux bien vous croire, mais j'ai parfois des petits doutes. Mais en tout cas, allez, vous m'avez lu. Il y a une partie l'Allemagne entière sur les trois. Écoutez-moi.
Je trouve ça ridicule l'Allemagne des années 30, page 19.
Ridicule.
C'est facile.
Vous avez noté que j'ai pas employé le mot par rapport à ce que vous venez de dire, et pourtant il y avait des passages qui pouvaient m'inspirer sur ce mot. Donc juste pour revenir là-dessus, je ne pouvais pas dire que vous m'avez lu et ne pas avoir vu qu'une des trois parties est intégralement consacrée aux ce que j'ai appelé les sept péchés capitaux des partis de gouvernement qui ont fait le lit de la montée au pouvoir des populistes.
Vous ne citez pas Sarkozy. L'époque Sarkozy.
Bon, alors vous m'avez encore pas lu.
Pardon.
Je l'ai évoqué. J'ai évoqué très clairement. Bah écoutez, je sais ce que j'ai écrit quand même. J'ai évoqué très clairement le fait que que les partis de gouvernement n'ont pas fait ce pourquoi ils avaient été élus, ils ont été durablement sanctionnés, à commencer par la droite. Et c'est le grand rendez-vous manqué de la période 2007-2012 que j'ai évoqué parce que effectivement, il a baissé les effectifs de police, il a laissé filer les déficits, et puis est arrivé un certain nombre de décisions qui malheureusement nous ont coûté extrêmement cher et qui ont permis l'arrivée de Hollande. Juste une dernière chose, qu'on soit très très clair. Ce que j'explique dans ce livre, et vraiment c'est fondamental, c'est qu'il n'y a pas une différence d'opinion entre un parti populiste et un parti de gouvernement. Il y a une différence de nature. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en réalité, là où le parti populiste dit « mais c'est très facile », c'est pour ça que j'ai appelé ça les charlatans face aux médecins, Le parti de gouvernement assume que c'est difficile. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un leader de gouvernement qui, de temps en temps, sombre dans la facilité du populisme. Vous l'avez rappelé, et je l'ai moi-même décrit dans le livre. Mais je veux aussi rappeler une autre chose. C'est que les partis de gouvernement, ils ont perdu la bataille du récit. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont réussi et qu'ils n'ont jamais assumées. La gestion de la crise financière dans les années 2008-2009, Dieu sait si je suis pas tendre avec Sarkozy, mais là-dessus, les responsabilités ont été prises par le couple Sarkozy-Merkel. La crise contre la lutte contre le terrorisme, Dieu sait si je suis pas proche de Hollande, ça se saurait. Mais je l'ai écrit, la manière dont à ce moment le gouvernement a réagi était évidemment la bonne. D'ailleurs, regardez les dispositifs qui ont été mis en place. Et le Covid, même chose. D'ailleurs, ça a rendu hystérique et Le Pen et Mélenchon, qui à ce moment-là osaient parler de dictature sanitaire, quand dans le même temps, dans les vrais gouvernements populistes, Russie, Chine ou autres, on enfermait les gens, on avait un vaccin qui marchait pas. Bon, quand même, il faut rappeler aussi
tout ça. Est-ce que le quoi qu'il en coûte, c'était populiste, le quoi qu'il en coûte, de dire le quoi qu'il en coûte, de dire on va tous vous sauver, on va assurer financièrement, mais, ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on en paye.
Mais vous savez ce qu'on paye aujourd'hui? C'est que Macron n'ait pas eu le courage d'arrêter les frais. Il fallait faire le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, et heureusement qu'on l'a fait, c'est ce qui a sauvé nos entreprises, et on ne le rappelle pas suffisamment. En revanche, dès que l'épidémie était enrayée, il fallait tout de suite arrêter. Or, le problème, c'est que les autres pays ont arrêté les aides, sauf le nôtre, parce que malheureusement, Emmanuel Macron a commencé à partir de ce moment-là.
Présidentielle aussi.
Oui, mais enfin.
Ah, est-ce que c'est pas populiste, okay, finalement, enfin, faire des chèques avant une élection présidentielle?
Mais quand il est élu, au lendemain de son élection, il coupe les aides. Ce qu'il s'est bien gardé de faire, comme il s'est gardé d'avoir une majorité.
Mais après, les Français l'ont élu, donc c'est parce que.
Et en 2022, vous étiez prêt à travailler avec lui.
Du moins, vous disiez.
Alors non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, parce que là aussi, il faut être précis, même quand on est chroniqueur aux grandes gueules.
Je suis assez précis.
Bon, mais assez, voilà. Tout est dans le assez. Qu'est-ce que j'ai rappelé? J'ai rappelé que la 5e République, elle fonctionne pas si on n'a pas de majorité absolue. OK?
Oui,
donc, à partir du moment où il manquait un certain nombre de députés, il aurait fallu que M. Macron disent, OK, les Français vont pas donner de majorité absolue, je change mon programme, je le droitise, notamment sur les questions de sécurité qui est son grand échec, et d'immigration, et je propose un pacte de gouvernement avec les Républicains, et dans lequel, à ce moment-là, on refait une majorité absolue. C'était ça mon message. Donc c'était pas de gouverner avec le centre gauche, c'était de gouverner avec le centre droit.
Puisque vous parlez d'immigration.
On a d'ailleurs toujours fait, je rappelle, vous étiez à l'UMP quand vous étiez plus jeune. L'UMP, c'était la droite et le centre droit. Voilà. Et moi, je défends toujours une droite décomplexée. C'est-à-dire une droite qui est étanche avec le RN, mais qui en même temps dit les choses, et quand on est maire de Meaux, on dit les choses.
Prenons une mesure qui a été prononcée cette semaine par Gérald Darmanin, qui propose un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. Alors, est-ce que c'est populiste? C'est faisable?
C'est indispensable, surtout.
C'est indispensable.
Bien sûr. La vérité, comment on fait? D'abord, on fait ça par ordonnance. C'est-à-dire qu'il existe en France un dispositif qui permet d'aller beaucoup plus vite que la loi traditionnelle qui dure 18 mois. C'est comme dans une société où il faut 18 secondes pour faire un tweet, 18 mois pour faire une loi, c'est pas du tout adapté. L'avantage des ordonnances, d'ailleurs c'est ce qu'avait fait De Gaulle en 58, c'est de prendre par ordonnance, tout de suite, c'est l'article 38 de la Constitution, les 20 ou 30 décisions qui déverrouillent ce pays dans tous les domaines. Les retraites, l'immigration, la sécurité, c'est indispensable et c'est ce que j'ai écrit en toutes lettres dans mon livre. La deuxième chose, c'est que ça doit s'assortir d'autres mesures, ce que d'ailleurs Gérald Darmanin a très, très justement proposé. On ne peut pas rester comme ça. Il faut effectivement rétrécir les conditions du regroupement familial. Il faut évidemment faire en sorte que ce soit une immigration exclusivement du travail, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de choses que ce qu'on appelle les natifs, nos concitoyens, n'ont pas envie de faire, et ce sont des tâches absolument majeures dans de nombreux domaines. Donc il faut bien, face à cette pénurie, qu'on fasse travailler des gens qui veulent travailler, mais uniquement pour le travail. Voilà. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ce que Darmanin, et d'ailleurs Édouard Philippe et Retailleau proposent. En réalité, il y a plutôt un consensus.
Mais vous avez choisi, vous, pour 2027, c'est Édouard Philippe ou Bruno Retailleau, votre candidat?
Non, pour l'instant, je n'ai aucun choix pour l'instant. Ça, je vous le dis tout de suite.
Vous n'avez pas choisi Bruno Retailleau qui est dans votre famille politique?
Non, mais j'ai fait aucun choix pour une raison très très simple. Je m'en suis expliqué. Moi, je n'accepterai jamais aucune facilité avec le Rassemblement National. Ce sont des gens qui sont, comme je vous l'ai dit, c'est tout le thème de mon livre, comme LFI, un parti populiste, c'est-à-dire qui ne travaille pas les solutions.
Bruno Retailleau accepte ces facilités?
Non, mais il y a aujourd'hui une porosité que j'accepte pas. Je l'ai dit très clairement. On ne fait rien avec Jordan Bardella. Je suis désolé, il y a peut-être des auditeurs parmi ceux qui nous écoutent qui vont être
Jordan Bardella.
Qui?
Bruno Retailleau ne fait rien avec Jordan Bardella. Ils ne se rencontrent pas, ils ne sont pas en discussion.
Quand François-Xavier Bellamy a voté la motion de censure de Jordan Bardella au Parlement européen contre Ursula von der Leyen, je suis désolé, c'est un message. Bon, quand le même n'arrive pas à choisir entre Éric Ciotti et Christian Estrosi, alors que nous avons fait des accords électoraux dans un certain nombre de villes, c'est un deuxième message. Il y en a un certain nombre comme ça. Donc ça s'appelle une porosité. Or, moi, je vois l'état du PS aujourd'hui, qui a fait cette alliance avec LFI et qui est aujourd'hui un corps mort, parce que ils ont lâché sur tout, et notamment sur la laïcité, pour accepter le communautarisme de LFI. Eh ben, j'ai pas envie que la droite de gouvernement tombe dans ce piège énorme. Je rappelle accessoirement que Madame Le Pen a voté avec LFI 40 milliards de hausse d'impôts dans le dernier budget, quand même. Alors, je suis pas sûr que ce soit la philosophie de la droite française. Donc, en fait, on n'a pas grand chose à se dire avec le RN. Alors, je sais que beaucoup d'électeurs ou de militants disent, mais si, il faut le faire, il faut faire une alliance avec l'extrême droite. On appelle ça même l'union des droites. Enfin, sauf que le RN, c'est pas du tout un parti de droite. C'est un parti extrémiste qui radicalise les positions, qui est dans la stigmatisation. Et moi, je suis maire de mots. La société française, c'est pas celle que décrit ni Monsieur Mélenchon, ni Madame Le Pen.
Vous pourriez faire comme François Mitterrand, socialiste, a fait avec le communiste. Il s'est allié.
Beau bilan.
Il n'était pas communiste. Ah bah, et finalement, il a étouffé les communistes.
Ah oui, mais
quel faire la même chose.
Non, mais quel merveilleux souvenir. Ah ben, je dois dire que la gauche de 81, quel beau bilan.
Au pouvoir.
Ben, elle est arrivée au pouvoir.
Parce que là, oui, mais vous dites, la droite reviendra jamais au pouvoir. Ben, pardon. Donc Jordan Bardella sera à 32%, la droite.
Eh ben, écoutez, moi, je ne partage pas votre avis parce que je pense que il va falloir un moment ou un autre que. Tout le monde, y compris, je vais dire des choses horribles, même la presse fasse ce petit effort qui consiste à décrypter les capacités ou non de Jordan Bardella, compte tenu de son âge, de ce qu'il a fait dans
après,
sa vie,
d'être le
chef de l'État, de la sixième puissance mondiale, et de le mettre face par exemple à Donald Trump, ou à Poutine, on connaît les porosités quand même entre le RN et la Russie. Enfin, tout ça va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ce soit dans la campagne quand même.
Quelle pas simplement. Entre le RN et la Russie. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça qui vous discréditent.
Qui me discréditent, vous blaguez ou quoi?
Porosité entre. Attends, mais je vais aller au bout. Porosité entre le RN et la Russie. Oui. Bellamy qui a voté un texte avec Bardella.
En fait, le RN.
Ça semble pas être très concret pour les gens.
Alors, je vais vous le faire très concret. Le RN. Au Parlement européen, a refusé de voter les crédits d'aide à l'Ukraine. Voilà. Alors, c'est une position, hein. Enfin, dans la période que nous vivons aujourd'hui, quand on voit le danger absolu que constitue l'invasion russe en Ukraine.
Je pense que les gens considèrent que c'est proposition.
Non, mais attendez.
Proposition, projet contre projet, parce que vous êtes dans le côté anathème. Ouais, un tel, c'est ça. Imaginez, ils ont voté ensemble et tout. Les gens n'ont ras-le-bol. Ils veulent qu'est-ce qu'on fait demain?
Alors, écoutez.
Un programme.
Alors, ben, justement, c'est là-dessus, c'est pour ça que je me dis, vous m'avez juré que vous avez lu mon livre.
Oui.
La deuxième moitié du livre, c'est que des propositions. Non, c'est
hyper concret.
Ah non, mais c'est que vous avez pas lu. Je peux pas vous suivre là-dessus. Non, c'est que vous avez pas lu. Parce que honnêtement, je fais un détail complet de ce que je propose sur la sécurité, reprise en main complète de toutes les villes avec des polices municipales armées, des caméras de surveillance partout, comme je l'ai fait à Meaux, où on a divisé par deux l'insécurité. Vous savez, je vais vous dire un truc. Comme vous le savez, je voulais être président de la République pendant des années. Donc je vous promets que je me suis beaucoup préparé. Voilà. Il se trouve que je ne le serai pas, mais je me suis beaucoup préparé. Je l'ai écrit en toutes lettres dans le livre. Sur l'immigration, j'ai fait des propositions très précise. Et enfin, sur le financement et la baisse des déficits, je propose de régler le problème du pouvoir d'achat des Français en proposant qu'on travaille une demi-journée de plus par semaine. Je précise, parce que je sais que vous avez eu ce débat sans moi, que ça veut dire le retour aux 39 heures.
Complètement.
Hein, c'est fait. Et une demi-journée de plus, ouais. Ça veut dire que moyennant ça, totalement sans charge sociale, on a un salaire direct qui augmente de 20% à 25% de plus pour les Français. Ça veut dire pour quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, ça veut dire qu'on passe très vite à 300-350 euros de salaire direct en plus pour les Français, ce qui est un vrai plus pour leur pouvoir d'achat, bien meilleur que ces aides poussives au carburant qui règlent rien. Mais l'argent, l'État n'a plus d'argent. Et avec la croissance générée par ce travail supplémentaire, ben en réalité, on sauve le pays parce que on permet de financer la sécurité et le désendettement.
Mais vous restez
ça,
avec
c'est pas
nous.
Concret. Alors là, mon vieux, honnêtement,
je vois pas comment les entendre. François Copé, vous restez avec nous quand les populistes
trahissent le club. Travaille plus.
Aux éditions Plon. Question de Fatima Hidbounois et de Bruno Poncet dans un instant. Il est 11h20. Vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
C'est le maire de Meaux, Jean-François Copé. Le maire LR de Meaux qui est avec nous. Il présente son livre « Quand les populistes trahissent le peuple », aux éditions Plon. Question Fatima Hidounoine, prof de français.
Alors, j'ai un... Il y a quelque chose que je trouve un peu paradoxal dans votre livre. c'est que la troisième partie, et je trouve ça très bien, vous proposez des solutions, mais dans la première partie, vous commencez avec cette citation sur les Français vivent au paradis et sont persuadés d'être en enfer, et on a l'impression...
De Tesson.
Voilà. Et on a l'impression, à ce moment-là, dans cette partie, que vous êtes en train de dire, vous nous faites le même coup que ce qu'on nous a fait pendant des années sur l'insécurité, où les gens disaient qu'il y avait de l'insécurité, on leur disait, c'est un sentiment d'insécurité. On dirait que vous nous dites, bah, les Français, c'est un sentiment de mal-être, mais dans un même temps, en troisième partie, c'est une ordonnance. Donc, si vous nous faites une ordonnance de médecin, c'est bien qu'il y a un malade. Donc, c'est quoi l'idée? Enfin, moi, et comment je l'ai reçu, ce livre-là, comme française, j'avais l'impression que vous apparaissez contre les charlatans, d'accord, en tant que médecin, le sachant, mais que vous niez notre position de patient expert. C'est-à-dire que les Français aussi sur le terrain, lorsqu'ils disent quelque chose, ont besoin d'être entendus par les politiques. Et peut-être que ces charlatans que vous dites, là, ils ont du charme. C'est qu'ils vont dire, on entend ce que vous dites. On n'est pas en train de nier ou de vous infantiliser aussi. Donc, quelle est votre relation avec les Français de terrain? Et surtout, comment vous faites pour les entendre sans minimiser ce qu'ils disent? Parce que c'est l'impression que j'ai eue, surtout dans la première partie.
Alors, on fait tout simplement parce que, quand on est, ce qui est mon cas, maire, en réalité, on est au cœur de la vie des gens. Et en fait, la ville de Meaux, c'est ce que j'écris dans le livre, c'est une petite France avec des quartiers difficiles, avec une quarantaine de nationalités différentes, avec des gens qui ont été confrontés ou qui sont confrontés à des problèmes d'insécurité, de drogue, de difficultés éducatives ou économiques, mais qui en même temps bénéficient, et c'est ça que je rappelle, d'atouts, d'aide qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Et notamment quand je parle de la carte vitale, qui est un symbole assez unique au monde. Non mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que rien n'est tout blanc tout noir. Et que l'intérêt de ce livre, il est de montrer que là où les populistes sont dans une logique excessive pour radicaliser, en réalité, le monde est fait de nuances. Et si j'ai commencé le livre en disant, en paraphrasant donc Sylvain Tesson, et en disant « La France est un paradis dont les Français pensent qu'ils sont en enfer », c'est parce que j'ai voulu rappeler qu'en réalité, nous devons aussi relativiser par rapport à la notion de tragique qui est la guerre. Oui, mais et nous avons cette chance de vivre dans un pays où il y a des accompagnements comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Quand on perd son emploi, quand on a un problème de logement, quand on a un problème de santé, quand on a un problème de retraite, il y a des aides qui n'existent pas ailleurs.
Ça donne l'impression que vous voulez faire taire les revendications légitimes. C'est-à-dire que moi, si je viens et que je vous parle du périscolaire en disant il y a un problème dans le périscolaire, on va dire ah oui, mais bon, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Oui, il y a des choses qui fonctionnent.
Mais on peut pas
lorsque je dis qu'il y a un problème, c'est exactement comme dans un couple. Si dans un couple, on vient dire il y a ça qui dysfonctionne et qui met en périple notre couple, vous n'allez pas dire oui, mais j'ai fait les courses hier. Vous voyez
alors,
bien que
je vais vous dire une chose.
D'abord,
je me permettrai pas de dire ça, mais la deuxième chose, c'est que je voudrais quand même appeler votre attention sur le fait que c'est des millions de gens qui travaillent sur ces sujets. Vous parlez du périscolaire. On peut pas réduire le périscolaire au scandale immonde de la mairie de Paris et de son comportement inadmissible. Le périscolaire, ce sont des dizaines de milliers de collaborateurs dans les collectivités qui font un travail exceptionnel pour les enfants. Mais on peut prendre d'autres exemples. Je n'ai par exemple jamais nié, bien au contraire, la question de l'insécurité. J'en ai fait un de mes chevaux de bataille. Simplement, j'ai apporté des solutions. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, mon point, et vous le voyez dans le livre, il n'y a aucun problème que je ne soulève sans apporter une réponse.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même que aujourd'hui, les Français s'appauvrissent?
Bien sûr. Mais non seulement je l'évoque là encore, mais je rappelle que s'ils s'appauvrissent, il ne faut pas qu'on fasse de langue de bois. Ils s'appauvrissent parce qu'ils ont fait un choix de société qui était de travailler moins. Or, moi, je ne connais aucun parent qui va dire à son enfant, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu travailles moins à l'école. Or, c'est quand même ce que, avec les socialistes, et nous, on a eu la lâcheté de pas revenir en arrière, on n'a pas surmonté. Donc, mon point, c'est que la clé du point de vue économique et social, c'est qu'il faut retravailler plus. Alors, je sais, c'est compliqué, c'est contraignant.
Même avec une nouvelle génération qu'on présente comme étant pas une génération qui a envie de tout donner au travail, qui fait attention à son confort de vie.
Mais est-ce qu'on est obligé
d'accepter des petits salaires, de pouvoir travailler quelques jours par semaine?
La preuve que non, il n'accepte pas de petits salaires puisqu'il exprime un mécontentement légitime. Et c'est ça qui ne va pas. Or, on ne peut pas dire je travaille moins, je ne gagne pas assez, je vais donc faire payer les riches.
Parce qu'on a expliqué aux gens qu'on pouvait moins travailler, que ça changeait rien.
On a menti. C'est le grand mensonge socialiste. Je ne vais pas vous dire le contraire.
Il y a des gens qui travaillent très dur, qui cumulent même même plusieurs travails. Moi, à chaque fois, je croise des gens, je rencontre des gens, je fréquente des gens qui ont deux travails. Et même la dernière fois, je parlais avec une institutrice qui faisait même Citigo pour essayer d'avoir de l'argent. À côté, elle est instite. Avant, c'était les gens qui gagnaient bien leur vie. Donc des gens qui travaillent dur, qui n'ont pas peur de travailler, qui ont été éduqués comme moi, j'ai été éduquée, où c'est voilà, tu travailles, tu gagnes la vie, tu tends pas ta main. Ces gens-là ne peuvent pas vivre de leur travail.
Écoutez, on est de plus en plus nombreux. Écoutez, non. Excusez-moi, mais on dit exactement la même chose.
Ils ont fait leur choix de ne pas.
Écoutez-moi. On peut pas tout. Excusez-moi, parce que franchement, il faut qu'on soit précis. Je suis pas en train de dire que chaque Français l'a souhaité. Je suis en train de rappeler qu'il y a eu un vote. Que ce vote a donc enclenché une majorité, il y a une minorité, mais il y a une majorité qui a voté pour qu'on travaille moins, qu'on baisse l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, alors qu'aujourd'hui l'espérance de vie c'est 80 ans, qu'on baisse à 35 heures, alors que la réalité c'est que toute l'Europe est entre 38 et 40. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'on ne peut pas gagner plus en travaillant moins. C'est un mensonge qui a été fait par les socialistes à l'époque.
Mais plus non plus, le pouvoir d'achat qui baisse.
Mais quand même, je ne peux pas dire ça. Si vous travaillez plus, forcément vous gagnez plus. Les heures supplémentaires sont comptées double. On a ensuite un problème de charges sociales qui sont trop élevées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu, là encore, renoncer à certains sacrifices sur le modèle de santé. Madame, c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Mais vous avez le droit d'entendre. Ce que je vous dis, c'est quand même cohérent.
Quel sacrifice on devrait faire?
Mais attendez, sur le plan de la santé aujourd'hui, il n'y a aucun débat autorisé, par exemple, sur la question du remboursement du médicament. Il n'y a aucun débat autorisé sur la suppression de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Dès qu'on en parle, on est traité de raciste, alors qu'ils ont tous les soins gratuits et que les Français ont des restes à charge. Je prends ces deux exemples.
C'est pas populiste de dire ça.
Mais qu'est-ce que ça a de populiste? Mais attendez,
certains pourraient vous dire c'est populiste.
Mais ce qui est populiste, c'est de ne pas apporter de réponse. Je propose une des pistes. Comme je vous ai parlé du médicament. Je vous ai donné deux pistes. Mais je peux vous en donner beaucoup d'autres. Une meilleure articulation entre l'hôpital et la médicine de ville. Là, on peut pas dire que je suis populiste.
Non.
Bon. Mais c'est tout un ensemble de. Deuxièmement, sur l'affaire de la retraite, on ment aux gens. Il faut qu'on fasse des fonds de pension. Des fonds de pension comme il y en a dans tous les pays du monde pour faire de l'épargne capitalisée en plus de travailler plus longtemps. Regardez la démagogie, on a suspendu une réforme des retraites qui nous amenait à 63 ans, la moyenne européenne est à plus de 65. On n'est pas crédible sur le plan européen et ça c'est pas la faute de l'Europe.
Bruno Poncet.
Moi je vais me faire l'avocat du diable. Moi quand je vous entends et je vous ai lu, j'entends, mais Sarkozy, Hollande ont été élus sur des mesures populistes. Sarkozy nous parlait de nettoyer les banlieues au Karcher. Il l'a pas fait. Hollande nous disait que son ennemi, c'est la finance. Ah ben, malheureusement, ça a été plutôt le contraire. Mais donc, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que on peut penser aujourd'hui ce qu'on veut sur la droite ou la gauche de gouvernement. Sauf que les gens, ils se disent qu'une seule chose. Les autres, on les a pas essayés. Oui. Et quand bien même ils nous mentent, quand bien même ils nous vendent du rêve en disant, bah voilà, alors le RN, c'est tout sur les immigrés, les filles ou d'autres, c'est plutôt sur les riches. Mais les gens, c'est ça qu'ils ont envie d'entendre. Aujourd'hui, vous voyez très bien, il y a encore des gens
avec cet argument, on n'a pas essayé.
Oui, voilà. Absolument. Alors là aussi, c'est vraiment un sujet que j'ai vraiment décortiqué dans l'histoire, j'ai fait vraiment un travail de décortiquage. Donc là, ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, Sarkozy a été élu sur un projet et il n'a pas fait ce pourquoi il avait été élu. Bon, en baissant les effectifs de police, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, très bien.
C'est peut-être d'ailleurs pour
Hollande, je le cite dans le livre expressément, Hollande de la même manière se fait élire sur Mon ennemi c'est la finance et il termine sur une loi El Khomri qui est une loi de libéralisation du travail.
On est bien d'accord.
C'est une bonne loi, mais malheureusement, pour ça qu'il avait été élu. Bon, après, moi je suis désolé, mais l'argument du RN qui dit votez pour nous, vous nous avez jamais essayé. Ben si en fait. D'abord parce qu'il y a aujourd'hui des leaders populistes qui sont élus et qui amènent leur pays à la débâcle. Regardez Trump aux États-Unis. Regardez ce qu'a fait Orban, je l'évoquais tout à l'heure. Regardez un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont restreint les libertés, ont porté atteinte à des fondamentaux de la dynamique économique et qui sont en train de ruiner leur pays. Bon, ensuite, je suis désolé, la France aussi elle a essayé parce que moi je veux bien que ce soit des choses dont on n'a jamais le droit de parler dans la catégorie des tabous. Enfin, il y a eu un moment où ça s'appelait la Révolution nationale entre 1940 et 1944. Eh bien, il y a une partie d'extrême droite qui a pris le pouvoir, qui a restreint les libertés dans un contexte d'occupation, de collaboration, mais qui surtout a appliqué une doctrine qui est pas très éloignée de ce que Pétain, de ce que Le Pen a raconté après, le protectionnisme, tout est bon chez nous, à bas l'étranger, enfin tout autant de choses qui ressemblent quand même singulièrement à ce que à ce qui est fait dans le discours du Rassemblement National.
J'entends, mais ça me paraît très caricatural et donc.
Mais dès qu'on parle de ça, c'est caricatural. Eh ben très bien. Alors continuons de trouver ça formidable.
Quel point commun entre Bardella et Pétain?
Mais je n'ai jamais dit qu'il y avait un point commun entre Bardella et Pétain. J'ai dit que quand l'extrême droite dit,
on a essayé.
Quand l'extrême droite dit, on ne nous a jamais essayé. Je dis factuellement, c'est faux. Je vous ai donné des exemples contemporains et je rappelle que la Renvoie de France n'est pas une page blanche.
Mais justement, tiens, pour terminer, parce que c'est fini le temps qui nous est imparti, je vais trahir une petite confidence que vous avez fait avant l'émission. Vous avez vu le film sur De Gaulle. Oui. Et vous nous avez dit c'est un excellent film qu'il faudra aller voir et qui résonne avec l'actualité aujourd'hui. Pourquoi ?
Il y a deux films à voir. Il y a le film qui évoque l'histoire de Jean Luchaire, ce journaliste qui a commandé la presse de collaboration et qui montre comment petit à petit il est rentré dans la compromission total et effectivement avec des idées qui étaient devenues celles de l'extrême droite de l'époque. Et puis, en parallèle de ça, un film sur De Gaulle qui a été réalisé, qui est absolument exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir en avant-première hier. Et je dois dire que c'est un message magnifique, un appel à la résistance, même quand on est seul contre tous, même quand on vous explique de manière de prophétie autoréalisatrice que quoi qu'il arrive c'est foutu, que la France est foutue, que de toute façon les extrêmes prendront le pouvoir, eh bien moi je voudrais dire que non, il y a un appel à la résistance. Il faut se rappeler les grands modèles de notre histoire. La France, ça n'est pas la petitesse des extrémistes, c'est la grandeur des gens courageux, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à proposer pour l'année qui vient.
Merci Jean-François Copé, quand les populistes trahissent le peuple. Merci d'avoir débattu avec les GG.
Merci à vous.
Le livre est aux éditions Plomb. Dans un instant, le ministre de l'Éducation nationale, hier à l'Assemblée, il dit il faut réapprendre l'écriture manuelle à nos enfants.
Le geste scripteur.
Retrouver les pleins et les déliés. Ça tombe bien, on a une prof de français. Est-ce qu'elle fait écrire? Est-ce que nos enfants doivent réapprendre à écrire? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est midi moins 20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 mai. Vous avez jusqu'au combien ? Jusqu'au 29. On est le 27. Le temps passe vite, alors encore plus vite que ce que je ne crois. Vous avez jusqu'au 29 pour remporter les cadeaux Coupe du Monde ou les 10 000 euros. Les 10 000 euros et les cadeaux Coupe du Monde, c'est juste un SMS. C'est liste par SMS au 732-16. La liste, c'est celle de Didier Deschamps, les présélectionnés pour aller au Mondial. Et derrière chaque joueur se cache un cadeau, l'intégrale Coupe du Monde ou les 10 000 euros. Le pack Coupe du Monde, c'est le vidéoprojecteur, les maillots des Bleus, le ballon officiel, la boîte Lego du trophée. Alors vous envoyez liste par SMS au 732-16, tirage au sort tout à l'heure. À vous de jouer, à vous de gagner.
Il faut qu'on retravaille en classe sur le geste scripteur. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions rédiger à nos élèves des phrases complètes, de la majuscule jusqu'au point, et qu'il faut par conséquent bannir les textes à trous. Parce qu'on sait tous qu'effectivement un élève qui a une écriture complète, tout simplement, mémorise mieux et diversifie considérablement son vocabulaire.
Il faut retrouver le geste de la main. L'écriture, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la mémoire, pour la mémorisation. Et on a tous, nous, notre génération, encore la cale de l'écriture, oui, ici,
pardon,
au majeur.
Il n'a pas dit ce que tu es en train de dire, il a dit le geste scripteur.
Oui, pardon, tu as raison.
Et là, alors, est-ce que c'est un langage, un verbiage?
Novlangue.
Novlangue de l'éducation nationale, c'est comme ça qu'on parle, parce que. On n'utilise pas un ballon de
foot, mais
c'est un objet rebondissant.
Le référentiel bondissant.
Voilà, et j'ai l'impression qu'on est là-dedans, sachant que Édouard Geffray, d'ailleurs, moi j'avais trouvé très bon dans Les Grandes Gueules, parce qu'il connaît bien son domaine, il vient de l'éducation nationale, mais alors, il a peut-être aussi le langage de l'éducation nationale. Oui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut que nos enfants peut-être réapprennent tout simplement la base, c'est-à-dire écrire, savoir rédiger des phrases complètes, de la majuscule jusqu'au point. Visiblement, on supprime le point. Maintenant, il y a le point et une option dans une phrase. Il faut, par conséquent, bannir les textes à trous. Alors, c'est quoi les textes à trous qui, visiblement, on fait travailler à nos enfants?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'ils disent « il faut réapprendre », on dirait qu'on a complètement, parce que le « ré », le préfixe voilà, « ré », on dirait qu'on a arrêté complètement. Et donc, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas écrire, puisqu'ils ne viennent pas tous avec des ordinateurs. À la limite, si par exemple on avait fait un grand changement où tout le monde avait un ordi et que tous les élèves étaient en train de taper et on dit tiens, là on pourrait dire réapprendre à écrire. Là, je trouve ça étonnant qu'ils disent réapprendre. J'ai l'impression qu'ils construisent plus son image que quelque chose. Donc ma limite est là. Après, sur le fond, moi je suis plutôt d'accord sur plusieurs choses. Sur le fait, l'importance de l'écriture, mais même au-delà de l'écriture, même de la motricité fine. On a des enfants à l'école primaire et les professeurs des écoles le disent, qui arrivent surtout au début et qui sont des enfants doigts. C'est quoi un enfant doigt? Un enfant qui sait utiliser la tablette parce qu'on l'a mis très tôt, donc il a son doigt comme ça. Il fait ça, tu le mets devant une feuille, il a envie de faire glisser, même devant un livre, il veut faire glisser, et qui n'a pas fait ni pâte à modeler. Ah oui, il y a des enfants comme ça. Bah, tôt, ils n'ont jamais fait. Si par exemple tu lui proposes pas de la peinture chez toi, de la pâte à modeler, tout ce qui fait que tu vas utiliser tous tes doigts et que ça tâche et tout ça, tu laisses un peu se débrouiller, ben la tablette c'est un peu facile. Tu fais du coloriage, t'appuies comme ça, ça fait toute la couleur dans le cadre, t'as pas appris à déborder ni rien. Donc c'est la question de la motricité fine en règle générale et l'écriture après en fait partie. Nous on le voit au collège, moi j'ai des élèves, c'est illisible. Ça veut dire je mets un temps fou pour les lire et je leur écris graphie et tout ça. Ils tiennent mal leur stylo.
D'accord, mais Fatima, est-ce qu'on n'est pas de toute manière rentré dans un monde où on n'écrira plus jamais puisque les adultes sont devant l'ordinateur et écrivent l'ordinateur. Nous-mêmes, on n'écrit quasiment plus aujourd'hui. On frappe, etc.
Tout le temps.
Mais parce qu'on est entre les deux générations. Sera dans un monde peut-être où on n'écrira plus jamais de la main.
Et alors, il y a deux choses. Une fois adulte, par exemple, si toi adulte, tu me dis ah, Fatima, j'écris presque plus parce que je suis sur mon ordi, tu sais écrire pour autant.
Mais parce que je suis une génération, on n'a pas appris.
Voilà, moi j'aime bien. Toi, t'as le choix. Tu peux,
oui,
si
mais
tu
cette
veux
nouvelle
écrire,
génération.
Si, on va pas te donner, tu ne sais pas écrire.
Fatima, d'accord. Mais...
Donc, moi, pourquoi toi, tu saurais faire quelque chose et là, on va élever des enfants?
Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, Fatima.
Alors, mais
aujourd'hui,
pourquoi renoncer?
Cette nouvelle génération va grandir.
Les neurosciences, c'est pas ringard de savoir écrire et de savoir tenir un stylo. Je suis désolée.
Est-ce que ça sera utile?
Les neurosciences.
Pas ringard. Je n'ai pas utilisé ce terme qui est un péjoratif. Je dis, est-ce que ça sera
utile
de savoir écrire dans le futur?
Parce que les technologies peuvent être défaillantes. D'autre part, les neurosciences ont montré que même pour la mémorisation, c'était nécessaire. Regarde avec le téléphone, on a dit, regardez combien d'entre vous, vous connaissez encore les numéros de téléphone? Parce que on se fie, on a tout laissé à notre donc c'est comme un muscle.
Pareil.
C'est
l'intelligence artificielle fera qu'on n'écrira plus jamais. Mais on dictera des textes.
Pour l'homme augmenté avec un disque dur externe. Je suis pour le plus possible développer des capacités et après en tant qu'adulte, peux choisir d'y renoncer.
Tu peux le regretter, Fatima, mais je pense que
comme professeur, je vais faire mon possible de la même manière.
Attends,
juste sur ça, je vais continuer d'apprendre aux élèves à écrire, faire une rédaction, alors que tu peux me dire, c'est bon, il y aura ChatGPT, ils peuvent demander à ChatGPT et ChatGPT va le faire.
Je parle de l'écriture.
Et tu vois, ça rend très dépendant quand
Olivier,
même. Hein.
Sur l'écriture en elle-même, sur le geste, le fait d'écrire proprement, je pense que c'est un apprentissage fondamental pour l'enfant de patience, de précision,
de
faire les choses bien tu peux dire on va supprimer l'écriture, de toutes les façons on en a plus besoin, mais en réalité c'est pas l'écriture
qui est importante, elle va d'elle-même.
C'est toute l'attention portée à un geste, c'est la concentration, etc. C'est tout ça. Et moi je prends toujours l'exemple de mes études de droit. J'ai fait 5 ans de droit. Ah ben oui, d'accord. Est-ce que je les utilise tous les jours? Évidemment que non. Mais c'est une façon dont ça m'a formé, dont mon esprit réfléchit, etc. Et tu peux dire, demain il y aura ChatGPT pour tout. Et ben je pense qu'en réalité, la différence se fera entre ceux qui ont encore la capacité personnelle de produire un raisonnement ou d'écrire à la main, etc. Et les autres qui seront complètement, qui n'auront plus de valeur ajoutée.
Tu écris toujours autant.
Ouais. Et sur j'écris la... à la main. Dès que je dois réfléchir, j'écris à la main.
Et sur la ponctuation, la disparition de la ponctuation, ah oui, c'est une catastrophe. Parce que c'est ta pensée aussi. Moi, quand un élève fait une phrase de 10 lignes, c'est sa pensée qui est déstructurée. On ne te parle pas de vous quand vous envoyez un SMS.
Tu ne dis pas merci, tu ne mets pas le point.
Nous, sur nos SMS, on ne met pas de ponctuation, mais c'est volontaire pour ne pas être agressif. Mais là, on parle de personnes qui ont la pensée déstructurée parce que le langage, c'est ta pensée aussi. C'est un.
Et aujourd'hui, au lieu de trouver le bon adjectif ou la bonne tournure de phrase, tu mets un émoji. C'est plus simple que de trouver le bon adjectif qui caractérise ta phrase ou ce que tu veux dire.
On est dans la communion, Bruno Penseur.
Non, mais je me dis que si, et Olivier a peut-être pas tant, c'est peut-être l'avenir qu'on aura, mais moi je me dis que.
C'est pas, je le souhaite, mais, je pense que.
Mais l'arrivée de la télé a pas empêché le théâtre et le cinéma de continuer, donc je me dis que ça a encore de l'espoir. Mais moi ce que je vois, c'est que si demain, ChatGPT ou l'IA prend la main sur tout ce qui est éducatif et tout, eh ben, c'est facile. Tu auras des générations qui vont arriver, tu en feras ce que tu veux. Ça sera docile parce qu'ils n'auront pas de propre réflexion. Ils n'auront même pas de besoin de comprendre, de réfléchir sur le monde parce que tout le monde leur fera. Et donc, en fait, c'est très bien pour nos gouvernants parce qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent et tu auras de la chair à canon, tu auras de la chair à usine, tu auras ce que tu veux. Par contre, tu auras plus d'être humain.
Je vais te donner un exemple. On fait l'oral du brevet. Oui. Et maintenant, avec l'oral du brevet, certains ont préparé sur ChatGPT. Je vais avoir une petite qui avait fait un truc sur Guernica. Elle commence et elle l'a fait sur ChatGPT. Et elle commence, elle récite, elle l'a appris par cœur. Et ça faisait illusion. Sauf à un moment, on lui dit, vous avez utilisé le terme monochrome. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle savait pas. Vous avez utilisé tel terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en vrai, c'était un langage vide. Moi, je veux qu'on habite notre langue. Ça veut dire les mots veulent dire quelque chose.
Moi, je faisais la même chose avec mes textes en allemand.
Bah ouais, mais on peut pas.
J'ai eu 12 au bac. Je suis incapable de te dire précisément ce que j'avais appris. J'avais appris par cœur mes textes. Je redoutais les questions parce que je comprenais rien de ce que je. Et j'ai eu du pot parce que l'examinatrice m'a pas posé de questions. Non, mais... j'ai balancé mon texte en allemand, j'ai eu 12. Mes parents s'en sont jamais remis. Ils me pensaient, ils disaient, mais comment t'as eu 12 alors que t'étais nul?
Mais après, on voit le décalage. Moi, j'ai des élèves.
Il n'y avait pas ChatGPT.
Ils vont vendre ils me donnent une copie. La copie, c'est très bien. Je me dis, mais dis donc, c'est pas possible. Je lui parle. Ses phrases sont déstructurées. J'ai dit, mais on voit.
Et quand tu leur dis de décrire, tu sens que c'est un effort, tu sens qu'il.
Ah oui, c'est très dur. Même d'avoir des phrases construites. Après, moi, ce que je vous dis, c'est pas le niveau qui baisse, c'est l'écart qui se creuse. Ouais. Ça veut dire, j'ai des élèves. Alors, graphie, pareil, j'ai une élève, elle écrit magnifiquement bien. À chaque fois, j'ai envie de prendre des photos, je lui fais des cœurs, je suis amoureuse de son écriture. Et d'autres, c'est illisible. Et pareil pour la pensée. Certains, bah, ça y est, j'ai envie de passer des heures à discuter avec eux. C'est structuré, c'est profond. Et d'autres, vraiment, ils ne comprennent pas les mots qu'on
emploie. Tu parles des grandes gueules, tu vas faire ça, une grande gueule. Il y a certains qui veulent parler, puis d'autres.
On a appris qu'Antoine Dierce n'avait pas lu le lit de Jean-François Copé.
Ah oui, ça, c'est pas bien.
Jean-François Copé. J'aurais dû lui faire une petite interro.
On aurait dû faire un petit Moi, je l'ai lu.
Dans tous les cas, moi, je fais vraiment partie de la génération qui a énormément
écrit. Bah oui, toi, t'as la marque. Stigmate, regardez.
J'ai toujours la case, j'ai toujours l'os.
Tu parles. Toi, t'es un vrai mytho. Moi, je dirais rien, mais t'es un vrai mytho.
Ah ouais, qu'est-ce que t'allais dire?
Ah, rien du tout. Mais la case, tu viens d'ailleurs.
C'est pas ça qui t'a.
Ouais, c'est exactement.
C'était l'époque où on avait des cahiers de 200 pages. Ah bah et on arrivait en disant, et faites-moi confiance, à la fin de l'année, vous l'aurez rempli. Quoi. Ouais. Quelque chose.
C'est pas ça qui t'a habillé.
C'était dur à l'école au 19e siècle. Hein. C'était pas facile.
On se retrouve demain avec Joël Dagosséry, Charles Consigny, Laura Vartan-Martinez, Maud Bréjon. La porte-parole du gouvernement sera aussi avec nous. En attendant, le débat continue sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis. Quelle chance vous avez. Bonjour.
Oh, c'est gentil.
Mais je ne suis plus à un compliment.
Près. J'adore. Salut Alain,
good
salut
people,
les GG.
Goût d'énergie.
Exactement, oui, c'est un petit t-shirt comme ça. Nous allons parler dans un instant des 700 records de chaleur battus en deux jours. Est-ce qu'il faut tout climatiser en France? Les écoles, les logements? Est-ce qu'il faut un grand plan clim? Eh bien écoutez, on en parle avec vous dans un instant au 32-16. On parlera également, je ne sais pas si vous avez vu ça, de l'arrivée d'un fast-food un peu spécial à Paris. C'est fast-food qui fait un carton à Dubaï et qui propose des nuggets au caviar.
Très très cher.
Est-ce que c'est 75 euros la boîte de 10? Ça fait 7,50 € le nuggets. C'est le prix d'un café dans certains cafés hein, aujourd'hui à Paris.
C'est Instagram.
Est-ce que c'est tentant ou est-ce que c'est indécent? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux?
C'est tentant.
Oh, c'est ridicule.
Ouais,
mais non, pourquoi?
Non, c'est ridicule.
Alain Marchal,
moi, j'aimerais bien goûter à la pièce. Payer 7,50 €. J'en goûte juste un. Une boîte de 10.
Je serais curieux de voir de tester.
Écoute, on se met à 10 et on va acheter une boîte.
Arrête!
Bah quoi?
Hypocrite.
Je vais pas les payer 75 euros pour des nuggets.
Moi, je vais y aller.
Et bah, ok, Alain. Bah, ok. Bah, on verra si t'en rapportes à tout le monde. Bon, nous parlerons également. Non, non, mais ça ne dit rien, Nuggets. Oh là là.
Allez, vas-y, continue. Ah, oh, ben, il reste 30 secondes.
Non, mais un chiffre incroyable. Aujourd'hui, en France, 60% des élèves de seconde sont incapables de courir 4 minutes à faible allure, c'est-à-dire en dessous de 10 km/h. Est-ce qu'il faut rajouter des heures de sport?
Ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas courir.
C'est ce que ils ne savent plus rien faire.
Faut-il rajouter des heures de sport à l'école?
Il y a que 2 heures, il va pas
les faire. Il faut déjà faire maigrir les gosses.
Est-ce qu'il faut enlever les cours de musique au collège?
Tu fais musique et sport et tu fais un peu moins de français.
Bonne émission, bonne émission avec Estelle. Vous avez de quoi témoigner au 32-16 en direct jusqu'à 15h avec Estelle Midi et toute sa bande.
À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.